Bien, donc bonjour pour la reprise, et c'est moi qui entame le cycle de conférences de novembre. Alors, je vous ferai grâce de l'intro habituelle sur les bénéfices du programme du mois de novembre. Vous avez lu le bulletin, j'espère, donc j'attaque tout de suite parce que je vous ai concocté une conférence dense et longue. Mais je vais essayer de tenir, j'ai ma petite pendule là au-dessus. Donc, une petite introduction rapide. Donc, vous savez que je ne suis pas, j'ai aucune formation en histoire de l'art. C'est pour ça que je vous fais une conférence d'histoire de l'art. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Tout simplement parce que depuis que je suis ici, depuis 10 ans, j'ai fait le décompte à peu près 200 conférences d'histoire de l'art. Donc, qui sont toutes très intéressantes et par une vingtaine de personnes différentes. Donc, globalement, c'est très intéressant, mais j'ai toujours quand même une petite frustration parce que je trouve qu'on oublie un peu trop l'artiste lui-même et on ne parle que de ses œuvres. Donc, je voudrais essayer de faire quelque chose où on parle un petit peu plus, et beaucoup plus même, de l'artiste pour comprendre pourquoi il a fait ses œuvres. Donc, c'est un essai, soyez indulgents. Évidemment, comme je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'art, j'ai beaucoup lu, j'essaye de vous retransmettre ma sensibilité. J'aime beaucoup cet artiste, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi aussi pour une deuxième raison, c'est que il y a eu des sondages qui ont été faits aux États-Unis dans les années 2000, en disant au grand public quel est le peintre, le plus grand peintre américain du XXe siècle. À une écrasante majorité, on cite Norman Rockwell. On ne cite jamais ni Pollock, ni Rothko, ni Warhol. Non, non, mais on ne cite pas les artistes modernes qui sont inconnus du grand public. Par contre, celui-là, il est hyper connu. Alors, il a une autre particularité, c'est qu'il a une carrière extrêmement longue. Il a peint pendant plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Il est mort à 84 ans. Jusqu'à la fin, il a peint. Et il a eu du succès tout le temps. Il a toujours gagné de l'argent, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 84 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Et il a vécu tout le XXe siècle. Donc il a vécu des transformations sociales absolument fantastiques. Et pourtant, on les voit un petit peu dans sa peinture. J'essaierai de vous montrer comment, par rapport à son vécu à lui, qu'est-ce qu'il a essayé de retransmettre dans ses peintures. Voilà, on y va. Oui, il y a un problème ? Voilà, on pourra éteindre si nécessaire. Voilà. Alors, voilà les références des livres que j'ai utilisés pour préparer la conférence. D'une part, une biographie qui a été faite en 2001. Pourquoi cette biographie est sortie en 2001? Tout simplement parce que, comme je l'ai laissé entendre dans mon introduction, il y a un intérêt renouvelé, global, mais en particulier aux États-Unis, pour l'art figuratif. Et deuxièmement, les mémoires de Norman Rockwell, que j'ai ici, voilà, si vous pourrez y jeter un coup d'œil, qui ont été faites en 1960. Et je vous dirai dans quelles circonstances elles ont été faites. Alors, en introduction, je vais vous commenter d'une façon un petit peu plus détaillée ce tableau, qui est une introduction finalement à son autobiographie, qui a été peint en 1960. Il a 66 ans. Et là, pour qu'on puisse se délecter des détails, je vais sortir de ma présentation et je vais vous montrer le même, mais en grand format. Voilà. Par contre, là, je dispose d'un outil qui me permet de me balader dans le tableau. Voilà. Alors, regardons-le globalement. On va dire, eh bien, c'est un tableau figuratif. C'est une figure de style classique en histoire de l'art, c'est l'autoportrait. Il s'appelle Triple Self-Portrait, donc le triple portrait, autoportrait. Et on dit, bah oui, c'est magnifique, la technique est extraordinaire, c'est photographique, et puis on peut s'arrêter là. En fait, non, parce que en fait, vous verrez que dans toute sa peinture, il y a des codes et des indices qui sont cachés ou implicites dans certains détails de la peinture. On va les passer rapidement en revue. Premier détail, vous voyez sur la droite du tableau, il a affiché ses sources d'inspiration. Donc vous reconnaissez, c'est facile, c'est très célèbre, Dürer, Rembrandt, Picasso, Van Gogh. En haut, vous voyez ce casque à l'antique. Là, les critiques se sont écharpés pour savoir quelle était la signification, donc je passe, joker, je ne donnerai pas d'interprétation personnelle. Sur la gauche, les esquisses de son tableau. Donc, on va analyser plus dans le détail ici. Je reviens. Attendez, pardon. Voilà. Ah, pardon. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en plus? Il y a un détail important qu'il faut souligner. Il n'y a pas d'arrière-plan. On va dire, ben effectivement, il avait l'habitude de faire des couvertures de magazines, c'est une figure de style classique. Il y a quand même une raison pour l'absence d'arrière-plan qu'on découvre également dans le miroir. Il n'y a pas d'arrière-plan dans le miroir. Tout simplement, ce qu'il a voulu dire, eh bien, je concentre ce tableau sur ma personne et sur mon œuvre. Donc, j'enlève tous les détails extérieurs qui pourraient distraire le spectateur. Deuxièmement, vous voyez la figure qu'il dessine, c'est Norman Rockwell dans la pleine force de sa jeunesse, c'est-à-dire il a 30 ou 40 ans. Là, il a 66 ans. Vous voyez, là, il n'a pas de lunettes, là, il a des lunettes. Là, la pipe est tombante, la pipe est montante. Vous voyez la symbolique. Et je n'irai pas plus loin. Voilà. Ensuite, rentrons un peu plus dans certains détails. Autre détail, les lunettes, les verres sont opaques. Alors que c'est pas naturel, on devrait voir les yeux à travers les verres. Et là, à mon avis, il a voulu expliquer, il l'a d'ailleurs dit dans son autobiographie, j'ai une face cachée, c'est-à-dire je ne vais pas tout vous dire sur moi. Donc c'est un signe visuel d'une certaine discrétion vis-à-vis de sa personnalité profonde. Vous voyez à gauche, sur la chaise qui tient sur laquelle est reposé le miroir, le verre de coca, inévitable, et un livre d'art avec des marque-pages qui lui permettent d'aller retrouver des références visuelles sur des œuvres dont il se sert en tant qu'inspiration. Deuxième remarque également, il est extrêmement bien habillé. Un détail, dans le miroir, vous voyez, il a un nœud papillon. Il a toujours peint comme ça, de son plus jeune âge à sa dernière heure. Il était toujours tiré à quatre épingles sur son chevalet. Il n'avait pas la blouse maculée de peinture. Il y avait quand même un peu de peinture là-dessus. Et d'ailleurs, quand il y avait un peu trop de peinture, eh bien évidemment, on s'essuyait soit avec des chiffons, soit avec des sopalins, dans la période la plus récente. Donc, il jette ces chiffons dans la poubelle, et là on voit un petit filet de fumée qui s'échappe. Évidemment, il a vidé sa pipe dans la corbeille à papier et ça brûle un petit peu. Et sur le sol, les pinceaux en bataille. C'est un petit peu contradictoire avec sa tenue tirée à quatre épingles, c'est-à-dire c'est les deux faces de l'artiste, le désordre de l'artiste et l'ordre de sa technique et de sa façon de peindre. Donc, Norman Rockwell, je vous le dirai tout au long de cet exposé, c'est un homme à plusieurs facettes, comme souvent, et il le montre implicitement dans sa peinture. Voilà. Je n'en dirai pas plus ici, parce que le temps nous est compté. Donc, je reviens dans ma présentation. Donc voilà un détail des petites vignettes qui sont en haut à droite. Quelques photos de Norman Rockwell. Donc Norman Rockwell, le voilà, il a à peu près une trentaine d'années ici. Ici, vous voyez sa première femme. Il a été marié 3 fois, je vous expliquerai les circonstances. Alors lui, se définit lui-même comme une grande perche, un grand échalas aux genoux cagneux. D'ailleurs, on le voit sur ce... c'est tout à fait frappant. Vous voyez que les deux pieds sont en canard, comme ça. Hein ? Il a porté des chaussures orthopédiques quand il était jeune. Voilà, le voilà avec sa seconde épouse, donc Mary Barstow, qui, voilà, le voilà dans l'âge mûr. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques taches de peinture sur sa chemise, mais il est toujours habillé comme son tableau iconique. La pipe vissée au bec en permanence, le voilà, et voilà avec sa troisième femme qu'il a épousée à l'âge de 66 ans. Marilyn Penderson, j'en reparlerai. Et le voilà à la fin de sa vie, et on voit là un tableau de Frank Sinatra que vous reconnaissez. Alors voilà le plan que je vous propose. Contexte historique, biographie, l'homme, les techniques de peinture et de reproduction, le copyright, je vous parlerai des problèmes de droit d'auteur, les sources artistiques, les modèles et les photographies, l'analyse des œuvres par thème. Rassurez-vous, je vous montrerai beaucoup d'œuvres. Hein, je ne vais pas vous faire du laïus pendant toute la conférence. Et je terminerai par des analyses critiques et sociologiques. Et on termine toujours par une conclusion. Alors, le contexte historique, c'est un New Yorkais. Hein, il est de la région New York et il a toujours vécu sur la côte Est. C'est un vrai New Yorkais. Et donc, il est né dans une période où, du pic de l'immigration européenne, avec les gangs, l'ébullition, si vous voulez, du melting pot américain. Il vit aussi dans un environnement où il y a beaucoup de maladies, mais ce n'est pas spécifique aux États-Unis. Donc, dans sa famille, beaucoup de gens mourront relativement tôt de la tuberculose ou de la syphilis. Et comme il n'y a pas de protection sociale, il y a une solidarité familiale qui joue fortement et il en fera usage pour ses proches. Je mentionne la guerre américano-espagnole. Ça, on a oublié qu'il y a eu une guerre entre l'Espagne et les États-Unis en 1898, qui a été gagnée par les États-Unis et qui, c'était l'affaire de Cuba. Et disons, l'institution militaire a une image de marque tout à fait positive. Alors, ensuite, évidemment, il a vécu la Première Guerre mondiale. Alors, il s'est engagé, après la déclaration de guerre, dans la marine, et il a eu, finalement, un poste de bureaucrate dans la marine, et ça a été une opération qui l'a un petit peu déçu. Je mentionne les Boy Scouts puisqu'il aura une relation très forte éditoriale et puis également idéologique avec le mouvement scout. Et ensuite, on passe après la guerre, donc aux années folles de ce qu'on appelle en américain « Roaring Twenties », dont l'image iconique, c'est ce type d'image, vous voyez le Charleston, et les images Scott Fitzgerald, etc. Ensuite, évidemment, la crise économique de 1929, il en souffrira relativement peu lui-même, puisqu'il était déjà célèbre et il continuera son activité. Par contre, tout son entourage va déguster dans la crise de 1929, en particulier son frère aîné, qui était trader et évidemment qui a disparu, qui a eu des problèmes. Le développement d'automobiles. La Seconde Guerre mondiale, il s'impliquera également très fortement, donc il ne va pas faire la guerre, mais il va être très impliqué dans la propagande de guerre des Américains. Ensuite, après la guerre, évidemment, c'est l'envol, l'essor économique des États-Unis, et on voit là une des couvertures qu'il a faites avec la frénésie des grands magasins, et par contre la face cachée, l'agitation des trains de banlieue. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été assez neutre politiquement, c'est-à-dire il n'a jamais voulu s'engager dans des causes diverses et variées pour des raisons essentiellement commerciales. Sous l'influence de sa troisième femme, il s'est engagé contre la ségrégation raciale. Et voilà un tableau aussi très célèbre de sa part, que je commenterai plus tard. Donc, rentrons un peu plus dans le détail. Sa famille, comme j'ai dit, sont des vrais WASP, comme on dit, White Anglo-Saxon Protestant. Et donc, ses origines viennent vraiment de la première immigration, 17e siècle. Sa famille est épiscopalienne, c'est-à-dire, pour vous décrire cette secte de l'Église, c'est une Église qui est anglicane, mais qui s'est détachée de la hiérarchie anglaise, si vous voulez. Et donc, les valeurs sociologiques de ce milieu-là, c'est valeurs de travail et d'action, pas de contemplation. Donc, le nom de ses parents, Warren Rockwell et Nancy Hill. Donc, Warren Rockwell, c'est vraiment la classe moyenne même un petit peu en dessous de la moyenne, c'est-à-dire les revenus sont très modestes, bien qu'il ait fait une belle carrière dans sa compagnie cotonnière. Il est assez distant vis-à-vis de ses enfants. Il a deux enfants, il a un frère aîné. Et il est actif dans la paroisse, évidemment pratiquant, comme sa femme. Mais sa femme, c'est une femme qui est dépressive et très égocentrique et qui est également distante avec Norman, qui est également très pratiquante. Lui ne sera dégoûté de cette période d'enfant de cœur, on va dire, où il a été forcé par ses parents à aller dans les chorales, et il ne sera ni pratiquant ni croyant pendant tout le reste de sa vie. Son frère aîné est complètement différent de lui. Lui, c'est un joueur de foot américain, donc très viril, qui bisute un petit peu son jeune frère cadet, et qui... Alors, l'enfance et l'adolescence, eh bien, ça se passe à New York, dans différents quartiers. Alors, deux points à signaler. Le père de Rockwell était un grand amoureux de Dickens. Et ça, on le retrouvera en filigrane dans toute sa peinture. Il a d'ailleurs illustré des livres de Dickens. Et il lit des Dickens. Et également, il y a un exercice en soirée, quand il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On recopie et on redessine les couvertures des magazines. Donc, la vocation de Norman Rockwell, elle s'est forgée vraiment dès sa plus tendre enfance dans le milieu familial. Tout simplement parce qu'on a découvert, et il a découvert lui-même, qu'il avait des talents innés, extraordinaires, pour le dessin. Alors, il n'aime pas l'école, c'est pas un scoop. Comme il s'est défini lui-même, j'étais le clown de la classe, c'est-à-dire il ne fait rien. Il s'est fait virer plusieurs fois de l'école primaire et de l'école secondaire, même en dessin. Et ensuite, eh bien, à cette époque-là, on change de location en permanence pour diverses raisons, des raisons économiques ou des raisons de santé, puisque sa mère souffrira d'un cancer du sein qui sera opéré en 1909. Elle est morte à 84 ans. Voilà, donc... voilà une petite carte pour dire, voilà le berceau de la famille Yonkers, Manhattan, dans différents... et deux lieux où il a habité, Mamaroneck, qui était une maison de son oncle, et New Rochelle, où il passera la première séquence de sa vie d'adulte, on va dire, de l'âge de 17-18 ans jusqu'à la trentaine bien affirmée. Alors, il apparaît très vite qu'il a envie de faire des études artistiques, et donc, pour ça, il faut suivre des études artistiques, malgré ses grands talents, et son père lui dit, c'est très bien, mais tu payes tes études. Il lui dit ça à 15 ans. Donc, très bien, je vais m'occuper de payer mes études. Donc, il fait différents petits boulots, et en particulier, je cite, qu'il a fait des piges au Met, c'est-à-dire, il était figurant dans les dans les opéras du Met, et il a connu Caruso, et c'était le grand copain de Caruso, et surtout de Madame Caruso, qui l'avait pris sous son aile et qui l'aimait beaucoup. C'était un gamin. Il commence ses études à la National Academy, et c'est l'équivalent des Beaux-Arts, si vous voulez, il ne s'y plaît pas du tout. Et donc il va dans une autre école qui est concurrente, l'Art Student League, qui est, il n'y a pas d'équivalent en France, d'une école, disons, associative de l'association, comme le nom l'indique, des associations des artistes. Il a des professeurs qui lui mettent tout de suite le pied à l'étrier, et il commence à faire du travail pour une revue qui s'appelle Tell Me Why, et il gagne de l'argent dès l'âge de 15 ans. Une particularité aussi, malgré ses faibles revenus de l'époque, il va tout de suite dans un studio. Il ne peint pas dans sa chambre de célibataire. Il loue un studio, il a 15 ans. Il loue un studio, il n'y a aucun problème pour louer un studio. Si on paye le loyer, ce n'est pas une difficulté. Il va chez un maître qui était connu à l'époque, qui s'appelle Charles Norton, qui est à Cape Cod, en 1912. Fogarty, encore un de ses professeurs, le présente à Edward Cave, et c'est là le début de son activité éditoriale payante. C'est Boy's Life, qui est un magazine pour les jeunes, comme le nom l'indique, très marqué par l'ambiance scout. Et il fait des couvertures, il a fait 400 illustrations, et dès l'âge de 1912, en 1913, il est nommé directeur artistique. Il a 19 ans, il est directeur artistique d'une revue, et il est payé pour ça. Et il l'est jusqu'en 1917. Donc dès cette période-là, 1917, je fais le calcul, il a 23 ans. Il gagne déjà confortablement sa vie. Alors, sa vie personnelle, il veut se marier avant son frère, parce que son frère lui dit, moi j'ai beaucoup de succès auprès des filles, donc c'est moi qui vais me marier le premier. Alors, juste pour embêter son frère, il dit, ben moi, tu vas voir, je vais arriver à me marier avant toi. Donc il est dans un milieu de jeunes, si vous voulez, où le New Rochelle, comme le nom l'indique, c'est près de la mer, et il y a des clubs de voile, et il connaît un certain nombre de dames, de jeunes filles, et il fait la conquête d'Irene O'Connor, et il se marie en 1916 avant son frère, donc il a gagné, hein. Et il s'aperçoit très vite qu'elle veut pas d'enfants, mais qu'elle veut de l'argent, et elle a tout de suite repéré qu'il avait des moyens et un potentiel important, donc c'est pour ça qu'elle a fait affaire avec lui, mais donc c'est pas un mariage d'amour. Elle s'occupe de son intendance et de son, ce qu'on appelle le fan mail, puisque dès cette époque-là, 1917-1919, les lecteurs envoient des lettres au journal en disant ben, « j'aime beaucoup telle ou telle couverture » et il tient à ce qu'on réponde individuellement à chacune des lettres. Il n'y a pas d'internet et c'est tout fait à la main. Il s'engage dans la marine, comme je l'évoquais, et il participe à la propagande de guerre en dessinant des affiches. Alors, le premier homme important qui va avoir un point important dans sa vie, c'est Clyde Forsythe. C'est un cartooniste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des bandes dessinées, vous savez, comme dans les journaux américains, des bandes dessinées quotidiennes, où il y a des petites blagues avec une dizaine d'images, et qui a déjà beaucoup de succès. Et il partage leur atelier. Et il rencontre J.C. Leyendecker, dont on parlera beaucoup plus longuement tout à l'heure, puisque c'est l'illustrateur vedette du poste. Et Forsythe lui dit, au bout d'un moment, écoute, si tu arrivais à te faire agréer par le Saturday Evening Post, qui est le journal de référence des illustrés, ça te donnerait un coup de boost extraordinaire. Donc, après beaucoup d'hésitations, il le fait. On n'a pas le temps de raconter l'anecdote. Et il est allé, ça se passe à Philadelphie. Donc, Philadelphie, c'est quand même à 500 km. On y va en train. Et il a son tableau sous la main, dans une boîte en bois. Et il le montre à Lorimer, qui est le directeur. Et instantanément, il est accepté. et il est payé cash sur place. C'était le bon temps. Donc le 25 ouverture entre 1916 et 1919, et il s'installe très rapidement comme un artiste de référence du Saturday Evening Post. Ah, il faut parler de ce journal, parce que ce journal, on n'a pas évidemment d'équivalent dans la presse européenne. Le fondateur, tout à fait à l'origine, c'est Benjamin Franklin, qui s'appelait le Pennsylvania Gazette, en 1729. C'est le premier journal américain, on va dire, qui était de diffusion nationale, si on peut appeler ça comme ça. Alors, il y a eu une première phase très intéressante, et les plus grandes plumes des littérateurs américains, donc Poe, Bisher Stowe et Fenimore Cooper, ont écrit des nouvelles et des feuilletons dans cette revue. Donc vous voyez le niveau, c'est une revue littéraire. Hein. Par contre, ça retombe à la fin du 19e siècle et le Cyrus Curtis, la maison d'édition Curtis, qui existe toujours aujourd'hui, qui est propriétaire du Ladies Home Journal, rachète le poste et elle embauche un directeur qui va se révéler absolument extraordinaire, qui s'appelle George Horace Lorimer, qui sera directeur de 1898 à 1936. Et c'est un tel succès qu'il passe de 10 000 exemplaires en 1896 à 3 millions d'exemplaires en 1937. C'est de loin le journal le plus répandu aux États-Unis. Évidemment, vous pouvez imaginer, si vous êtes sur la couverture, vous avez une audience absolument extraordinaire. Évidemment, l'environnement change et l'apparition de la photo et de la télé va porter un coup à ce type de magazine. Et il y a la décadence jusqu'en 69. Et maintenant, le Saturday Evening Post existe toujours en publication quadriannuelle. Et voilà notre ami Lorimer. Alors ça, c'est un personnage à tout point de vue, physiquement et politiquement, on va dire. C'est un homme qui fait 1m90 de haut, qui a un physique de deuxième ligne, on peut le deviner à son visage, et qui est, on dirait aujourd'hui, d'extrême droite. Hein. Alors, il est conservateur, isolationniste, productiviste, éthique individualiste. Il apprécie Rockwell puisqu'il l'a payé, mais il le domine de son autorité, c'est-à-dire que Rockwell a toujours, disons, rampé un peu devant lui, en attendant le verdict du maître. Mais par contre, il n'a jamais été, disons, dictateur vis-à-vis de sa ligne éditoriale ou de sa ligne artistique. Il dit « Fais-moi des propositions, je les accepte ou je les refuse. » Et globalement, il les accepte parce qu'il lui fait confiance. Il n'y a jamais eu de contrat écrit avec Rockwell. Imaginez, même aux États-Unis, pas de contrat écrit. Extraordinaire. Alors voilà des images de couvertures faites par Rockwell. Il y a toujours un petit soupçon d'humour ou de décalé dans les thèmes qu'il choisit. Vous avez compris ici, voilà monsieur qui lit son journal et madame qui attend que ça se passe. Ici, ça s'appelle The Gossip, j'y reviendrai, c'est ce qu'on appellerait le téléphone arabe. Donc, vous voyez toute une chaîne ici de gens qui racontent des salades entre eux et qui passent tous les ragots ici, et évidemment, la boucle se boucle sur la personne de départ. Voilà. Voilà alors j'ai cité quelques magazines de l'époque. Vous voyez, c'était très varié. Et toutes les couvertures étaient des couvertures peintes. Là, c'est dans les années 30, puisque la quadrichromie n'est apparue qu'au milieu des années 20. Donc, comme je l'ai dit, avec sa première femme, eh bien, il a fini par dire dans son autobiographie, il dit « j'avais fini par devenir snob, parce qu'on sort beaucoup, on fait des fiestas, je me fais construire une belle baraque, j'ai une grosse voiture, je joue au golf, je joue au tennis, enfin, etc. etc. » C'est pas tellement sa nature, mais il est entraîné par sa femme parce que il est dans un milieu social où il faut être comme ça. Alors, une autre des caractéristiques de Norman Rockwell, c'est que au milieu d'une vie très réglée, de temps en temps, ça craque et il a besoin d'un ballon d'oxygène. Et là, il fait un break et il fait un voyage plus ou moins long, de quelques mois à quelquefois plus d'une année. J'y reviendrai. Donc, dans les années 20, bien, très rapidement, la situation se dégrade avec sa femme, en particulier parce que son beau-père meurt en 1922 et toute la famille de Madame O'Connor se réplique à la maison et il y avait du monde. Et c'est Norman qui payait les factures. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en dehors de l'aspect économique, il y a également l'aspect... Il a l'expression dans son autobiographie, vous voyez ce que je veux dire. Il n'en dit pas plus. Et donc, il en a marre et il s'installe tout seul à Manhattan pour pouvoir travailler. Donc, j'avance. Et la fameuse maison somptueuse tape à l'œil qui se fait construire à New Rochelle, elle est faite par un architecte qui s'appelle Dean Parmelee, qui sera un très bon ami, qui sera le deuxième homme qui a beaucoup d'importance dans sa vie. Je vous expliquerai pourquoi après. Et donc, ça finit par craquer. Marie demande le divorce le jour du crack de 1929. Fallait l'inventer. Je rappelle, c'est à Reno que ça se passe, puisque c'est le seul état où on accepte le divorce. Et pourquoi ? Parce qu'elle était partie avec un autre homme, bien sûr. Ah, évidemment, il est complètement détruit par cet événement. Il s'y attendait quand même un petit peu, mais le jour où ça arrive, eh bien, dépression à nouveau. Et il va essayer de se ressourcer, on le verra, par des voyages. Alors là, ça lui porte atteint au moral, mais également à l'inspiration. Et il a eu ce trait de génie de se montrer un peu ridicule, c'est-à-dire il est maigrichon, on dirait un adolescent, et il se gratte la tête en disant « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour mettre sur la couverture ?» Mais vous voyez, il y a quand même certaines similitudes avec le tableau que je vous ai montré tout à fait au départ. Alors, Clyde Forsythe, donc le premier, le cartooniste, pour des raisons personnelles, va en Californie. Et il lui dit, écoute, tu t'es déprimé, viens donc, ça va te changer les idées. Donc il va en Californie, et puis je vais te faire rencontrer une jeune femme qui est vachement bien, qui s'appelle Mary Bastrow, là, une petite erreur, Mary Bastrow, qui est une enseignante, une jeune enseignante de 22 ans, de littérature. Et il la rencontre début mars, et il la marie au mois d'avril. C'est vite emballé, hein. Et c'est un mariage d'amour. C'est un mariage qui, au moins dans les 15 premières années, sera un mariage heureux. Et elle lui donnera 3 enfants, 3 fils. Alors, la dépression, elle passe, malgré ce mariage d'amour, passe pas tellement. Donc, il va avec sa femme à Paris, passer quelques mois. Ça revient pas, c'est pas ça. Il se balade, mais enfin, il va rencontrer quand même le milieu artistique de l'époque. Il rencontre en particulier Matisse, j'y reviendrai. Il revient à New Rochelle, il a son deuxième fils, et Irène, sa première femme, meurt 2 ans après, et elle s'est certainement suicidée. Et il a beaucoup de contrats, en particulier, il illustre des ouvrages de Mark Twain. Ça devait être le centenaire de sa naissance ou quelque chose comme ça. Et c'était sponsorisé par Macy's. Macy's, vous savez, c'est le grand magasin new-yorkais. C'est Macy's qui lui a demandé de faire ça. Et en particulier pour Macy's, il a fait la seule peinture murale qui existe, c'est le Yankee Doodle Dandy, qui est une illustration d'une comptine qui porte le même nom, qui est très connue sur la guerre d'indépendance. Et voilà. et qui est dans une auberge qui existe toujours et qu'on peut voir, qui est à Nassau, dans le New Jersey. Donc, la vie continue. Troisième fils, Peter. Lorimer est viré du poste au sens du Saturday Evening Post, parce qu'on considère qu'il est out. Et il est remplacé par un nouveau directeur qui s'appelle Stout, avec lequel il aura des mauvaises relations. Leyendecker, dont je parlerai plus en détail, est également viré par Stout. Il retourne en Californie, il fait des peintures d'acteurs, j'y reviendrai. Et il y a une affaire à New Rochelle, il y a une affaire qu'on a peu, enfin on n'avait pas la mémoire, j'en avais jamais entendu parler, c'est l'affaire Levine. L'affaire Levine, c'est comme le rapt du fils Lindbergh. Levine, c'était des riches banquiers de New York. Le fils a été kidnappé et finalement, il a été assassiné par ses ravisseurs parce que la famille n'a pas voulu payer la rançon et ça a créé. Et comme lui était très en vue, il a tout de suite craint. Il avait de très jeunes enfants. Il était une cible tout à fait potentiel pour ses enfants. Donc, ça commençait à sentir mauvais. Alors, il n'y a pas que cette raison-là. Il y a également, ils en avaient un peu marre du milieu social de New Rochelle, qui était un petit peu artistique, mais un petit peu snob, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il était quand même un peu cerné par la vie mondaine. Et il a eu envie d'aller dans un coin qui soit plus dans la campagne. Et il ira dans le Vermont, à Arlington. À partir de là, c'est la période où il commence à utiliser la photographie comme source de travail pour ses tableaux. Jusque-là, il avait beaucoup été réluctant à utiliser les photographies et il peignait d'après modèles vivants qu'il rémunérait et qui prenaient la pose. Il pensait que c'était un peu de la tricherie, si vous voulez. Et là, il réussit à faire venir quelques autres artistes pour recréer un petit milieu artistique qui existait déjà d'une façon beaucoup plus étendue à New Rochelle. Et là, à New Rochelle, donc, c'est la période le début, c'est la période de la guerre. Je reviens un petit peu en arrière. Ici, vous voyez qu'il est je ne sais pas si je l'ai mis ici. Il est en Californie au moment de Pearl Harbor. En 1941, si j'ai dû le mettre après. Non, je ne l'ai pas mis là-dedans. Si, fin 41, il est en Californie et donc il vit la période de Pearl Harbor. Et là, c'était, on le sait peu, ça, c'était une période tout à fait folle. Tout le monde avait peur d'une invasion des Japonais en Californie. Et il y avait une ambiance tout à fait délétère. J'ai mis en italique les principales œuvres qui ont été produites à cette époque-là, que j'analyserai à la fin de la conférence, donc je passe. Les relations avec IWO. IWO, ça veut dire quoi? Information War Office, c'est-à-dire c'est la propagande de guerre du département d'État. Et là, il y a eu tout un pataquès sur lequel je reviendrai, au bout du compte, où il a fait sa fameuse série qu'on appelle les Four Freedoms, les Quatre Libertés, en 1942, que j'analyserai dans le détail à la fin de la conférence. Et en 1943, catastrophe. Et c'est pour ça qu'il a représenté ça sur son tableau iconique. Il a laissé descendre dans ce machin, et tout son studio, qui était à part de sa maison, brûle complètement. Et toutes ses collections personnelles, et également des collections de Howard Pyle et de Leyendecker qu'il avait, partent en fumée, et qui étaient des originaux. Donc là, c'est un coup dur. Bon, il a repris, tant bien que mal, le dessus, puisqu'il a toujours été productif. Et là, c'est à ce moment-là, la fin des années 40, c'est sa femme qui commence à perdre pied. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, elle a déjà ses trois gosses. Il faut s'occuper de tout. Il n'a jamais eu de bonne, il n'a jamais eu d'aide, donc elle s'occupe de toute l'intendance. Elle s'occupe du fan mail, elle s'occupe des relations contractuelles avec les éditeurs, et il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. donc tout le business, toute la comptabilité, et en fait, lui s'en occupe pas, et en fait, elle perd pied. Il y a même eu plusieurs fois des redressements fiscaux, parce qu'elle avait foutu la pagaille dans la comptabilité. Elle n'y arrivait pas. Donc, elle ne s'en sort pas, et il apparaît qu'elle commence, pour oublier tout ça, ses ennuis, eh bien, elle commence à boire. Et il lui reproche. Les enfants ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est aussi un trait très fort de son caractère. Il cache les problèmes personnels, même à ses enfants. Et il a quand même le sens de l'humour, puisqu'il a dessiné toute la séquence de ce qui s'est passé pendant l'incendie de son studio. À nouveau, il retourne en Californie. Il a un pied-à-terre en Californie, puisque c'est la famille, c'est sa belle-famille qui habite là-bas. Il est très ami avec Disney, il travaille avec la MGM, et il participe à ce qu'on appelle les Famous Artist Schools. C'est un enseignement artistique par correspondance. On a le choix entre 12 professeurs, mais manque de peau, ça marche pas, parce que tout le monde veut lui comme professeur. Ils veulent pas des autres. Donc, il abandonne très vite. Je mentionne Clément Greensberg. C'est un critique d'art moderniste qui a fait un bouquin qui a eu beaucoup de, en disant tout le figuratif, ça vaut pas tripette, seul l'abstrait est bien. Je résume outrageusement sa thèse, et c'était l'opinion dominante dans les milieux artistiques, j'allais dire, de Greenwich Village. Les enfants grandissent, son fils aîné Jarvis veut devenir artiste et il lui construit un studio à côté du sien. Il prend des étudiants comme stagiaires et Mary continue à boire de plus en plus, elle est de plus en plus dépressive et elle va dans une autre ville qui est au sud de Darlington, Stockbridge, dans lequel il y a un hôpital psychiatrique qui est réputé à l'époque qui s'appelle l'institution Ricks, et dans lequel elle fera de nombreux séjours. Il y a encore un problème, accident d'escrime de Peter, il se fait transpercer malencontreusement par son partenaire, et il a failli passer, bon, il en a réchappé. Mais enfin, sa vie personnelle, l'incendie, l'alcoolisme de sa femme, et c'est quand même compliqué. Et donc, au bout d'un certain temps, il décide d'aller à l'endroit où il y a la clinique de psychothérapie, c'est-à-dire à Stockbridge. Et là, paradoxalement, les années 50, alors que sa vie personnelle est quand même très compliquée, comme je vous l'ai expliqué, les plus grands chefs-d'œuvre ont été produits pendant les années 50. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns, et là, je ressors. Là, j'ai beaucoup parlé, maintenant on va regarder un petit peu des images. Voilà. Shuffleton Barbershop. Ah zut. Ah, qu'est-ce que l'on voit sur cette... évidemment, on voit l'échoppe du barbier, qui est Monsieur Shuffleton. Alors ça, on voit la fin de son nom, et on sait qu'il est propriétaire, c'est marqué là. On voit ce barbier. Qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, c'est à la fin de la journée. La journée est terminée, et... Le barbier, on ne sait pas lequel c'est, on devine qu'il est quelque part dans cette pièce en arrière, et il est avec ses amis et il joue de la musique. Je rappelle que là c'est la country music, qui est très puissante au niveau de la tradition, et donc par exemple le soir, eh bien, on va faire de la line dance, de la square dance. Il a toujours participé à des manifestations de danse en groupe, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, à la campagne. Donc on peut imaginer qu'il joue de la country music. Et là, il y a beaucoup de détails absolument extraordinaires. Alors là, c'est vraiment photographique. On va balayer rapidement la chose. Donc. Et on peut apprécier la technique. Le siège, vous voyez le blaireau qui trempe dans le bol de le verre d'eau pour être rincé, le rasoir électrique, la tondeuse électrique, Vous voyez les joueurs de musique. Vous voyez un poster patriotique. On y reviendra à la fin. Vous voyez le poêle avec le charbon, le seau à charbon, les chaussures et le chat. Et les magazines. Et le chat, vous ne le voyez pas. Si vous ne faites pas attention, il y a le chat. Et ce qui se dégage de ce... Vous voyez la pêche, le sac à pêche, et la chasse. OK ? En fait, ce qui se dégage de ce tableau, c'est une atmosphère. C'est hyper réaliste. C'est même tellement hyper réaliste que ce n'est pas possible de voir ça, si vous voulez. Si vous étiez à la vitre, vous ne verriez pas, si vous voulez, il n'y a pas de flou à aucun moment. L'arrière-plan est aussi net que le premier plan. Mais les détails, vraiment, du plancher, des objets, sont absolument extraordinaires. Deuxième chef-d'œuvre, Seeing Grace. L'action de grâce, le bénédicité. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur ce tableau ? À l'arrière-plan, on est près d'une gare, dans un restaurant. Les gens attendent le train pour le prendre. Il pleut certainement, puisque tous les gens ont un parapluie. Ils ont même acheté leur billet. Regardez là. Et là, cette mamie est là, qui prie, qui fait son bénédicité. Vraisemblablement, c'est le petit-fils qui est là, on ne sait pas, mais on peut le deviner, qui a également la tête penchée et qui doit également prier. Et il y a deux jeunes hommes qui sont en face, qui la regardent d'un air dubitatif. L'un d'un air narquois et l'autre d'un air, on va dire, respectueux. Hein. Narquois, c'est plutôt celui-là, et respectueux, c'est celui-là. Quel est le message qu'il a voulu faire passer ici ? Tout simplement, c'est bizarre, cette mamie qui fait ce type de prière, ça ne nous viendrait même pas l'idée de le faire, mais on la respecte. On la respecte. Donc, c'est le respect des croyances et de la liberté religieuse sur laquelle je reviendrai plus tard. Et l'ambiance qui se dégage de ce tableau est absolument extraordinaire. On voit même le café et les restes de la banane que le... Troisième tableau, le critique d'art. Très mal nommé d'ailleurs, parce que ce n'est pas un critique d'art, vous voyez bien que c'est un étudiant qui étudie les détails d'un tableau de peinture hollandaise. Premier aspect, vous dites, bah, c'est bien, c'est marrant, c'est photographique et tout et tout. Mais si vous regardez un petit peu plus dans le détail, il y a quand même quelques trucs curieux. Vous voyez le modèle ici. Et le portrait regarde le jeune homme qui est en train de regarder en principe la broche, mais surtout le décolleté. C'est la mère de Tom, puisque ici c'est Tom qui a posé, c'est la mère de Tom qui avait posé pour ça et qui était horrifiée par la peinture en disant, mais tu l'as montré, en disant, il passe son temps à regarder dans mon décolleté. Donc, respect des maîtres et surtout étude des détails des tableaux des maîtres. Et bien là, pourquoi ? Bien, tout simplement pour faire une copie d'un tableau dans un musée. De l'autre côté, vous avez vu ce tableau au Rijksmuseum, hein, j'en vois certains qui l'ont visité ici, en face de moi. Et regardez celui-là. Il regarde également Tom qui a le nez dans le décolleté de sa mère. Alors qu'il devrait regarder dans cette direction-là. Donc, vous voyez, dans tous les tableaux de Rockwell, il y a des clins d'œil, si vous les observez avec attention. Celui-là, il est extraordinaire. Happy birthday, Mrs. Jones. Évidemment, c'est l'institutrice qui est attendrie par le évidemment, l'attention des élèves. Mais, quand vous regardez bien, il y a quand même quelques détails curieux. où il y a ça. Le drapeau américain, encore une fois, il apparaît. Les cadeaux doivent être là. Vous voyez, il y a une fleur, il y a deux paquets, il y a deux pommes. Et vous regardez en bas, il y a le chiffon, enfin la brosse, et les craies qui sont tombées par terre, et même une craie qui est écrasée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gamins ont écrit ça sur le tableau, et ils ont été surpris par la maîtresse, et au moment où elle est rentrée, ils se sont vite précipités à leur bureau pour être bien alignés, et en faisant ça, évidemment, ils ont écrasé la craie sur le parquet. La perspective est accentuée. Les personnages sont étirés vers le haut. Vous voyez, c'est pas naturel, c'est surréaliste. Et il y a quelques détails bizarres. Regardez. Donc, une fois de plus, quand vous regardez les tableaux de Norman Rockwell, regardez-les deux fois, trois fois, quatre fois, et vous allez voir des choses. Et on devine une partie de l'histoire. En voilà un aussi qui est hyper célèbre, hein, qui est After the Prom. After the Prom, c'est le prom, c'est le bal de fin d'études. C'est une institution qui est toujours vivante aux États-Unis. Et les jeunes garçons invitent les jeunes filles et se mettent sur leur 31. Ça existe encore, même actuellement aux États-Unis. Et vous voyez l'aspect ahuri, aussi bien de la jeune fille que du jeune homme, qui sont fiers comme des petits bancs, hein. Et le serveur qui regarde, qui va sentir le beau bouquet ici, on se demande s'il ne regarde pas autre chose. OK ? Et le sourire goguenard et amusé de l'autre client qui est à côté. Regardez bien tous les détails. The Runaway. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Eh bien, le secret, c'est ça. Ce petit gamin a fait une fugue. Il est avec son baluchon. Le policier l'a retrouvé et l'a rattrapé. Et lui fait un petit peu la leçon. Et pour lui remonter le moral, en disant, ben, on va rentrer chez papa-maman, mais je te paye un coup au bar en attendant. Comme ça, ça va, l'affaire va être bien réglée. Et également, le sourire complice du serveur. Tout à fait extraordinaire. OK. Vous voyez même, ça s'est certainement passé à Stockbridge, puisque là, il y a marqué Massachusetts. Voilà. Il faut tout regarder. Le carnet, le revolver. Même ça, le siège où le sky s'est écaillé, c'est le cas de le dire. Le reflet de l'arrière-plan dans le support chromé. J'y reviendrai sur celui-là. Donc je reprends le fil de mon exposé. Donc tout cela, je vous en ai parlé, et j'arrive ici. Alors, à Stockbridge, donc il utilise un certain nombre de personnes. Quelqu'un qui s'appelait Lois Lamon, qui servait de photographe, puisque finalement il ne prenait pas lui-même de photographie, il avait un photographe qui l'aidait. Sa mère décède en 54, Tom se marie en 56, et Mary s'enfonce encore un peu plus dans la dépression, évidemment, ses enfants s'en vont. Ça joue, et elle est traitée par électrochoc. À l'époque, la psychothérapie, c'était par électrochoc. À Hartford, dans une autre clinique. En 59, deux autres productions, et Mary meurt subitement d'une attaque cardiaque le 25 août 59. Et donc, à nouveau, notre ami Norman en dépression sévère. En 60, l'autobiographie, celle-là. Alors, je vous remonte où sont les... Donc, Arlington, donc il est parti de New Rochelle qui est ici, le Vermont Arlington ici, et Stockbridge ici. Et Hartford, la clinique d'Hartford, c'est ici. Et Philadelphie, le Saturday Evening Post, c'est ici. Alors, troisième mariage, bon, là, il est quand même établi, et donc la concurrence est rude pour trouver une nouvelle femme. Et donc, ça se bouscule un petit peu au portillon, et finalement, là, il a attendu un petit peu plus pour finalement se marier avec, je vais le montrer, là. Marilyn Punderson, qui est également une enseignante de littérature américaine, qui était célibataire et qui s'est mariée avec lui, et ce sera un mariage heureux jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus. Il fait beaucoup de voyages dans cette période-là, donc à partir des années 60, qui peut se payer, mais qui sont également payés par des compagnies, par exemple la Paname qui lui paye un voyage, le département d'État lui paye des voyages pour aller faire des portraits des personnages, des grands politiciens, par exemple Nasser ou Gandhi. On commence à faire des monographies sur lui. Il commence à faire des choses sur la ségrégation raciale. Et à partir de 1974, les premiers symptômes de ses naissances commencent à apparaître et il décède de la maladie d'Alzheimer en 1978. Pourtant, on avait en 1976, voilà, c'est le bicentenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis et il est harcelé de demandes, entre autres du département d'État, faites un tableau à cette occasion-là. Il le fait, le voilà. C'est le dernier tableau, on va dire, public qu'il ait vraiment pu faire. Je vous le remontre dans le détail. Et vous allez tout de suite voir que la main tremble. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu très rapidement sa vie, il est bien sûr timide et introverti, mais il est sociable si le contexte s'y prête. Il a un trouble de déficit de l'attention. C'est pour ça que dans sa scolarité, il était le clown de la classe. Et ça, c'est un défaut qui est très répandu maintenant. Et seuls les grands voyages le guérissent de périodes de stress ou de périodes de dépression. Il lui faut une vie réglée quand il est à la maison. Hein. Il est méticuleux et travailleur acharné. Il a besoin de la reconnaissance du public, non seulement pour des raisons pécuniaires et commerciales, mais également pour des raisons psychologiques. Donc tout tourne autour de sa peinture. Et il a une faculté extraordinaire d'éluder tous les problèmes qui le dérangent, en particulier les problèmes de sa femme ou de ses enfants, etc. Il essaye d'un peu de les occulter et de se noyer dans sa peinture. On utilise beaucoup le mot « boyish », qui est difficile à traduire, c'est-à-dire c'est un adolescent attardé, si vous voulez. Il a gardé un esprit d'adolescent attardé, on appelle ça aujourd'hui... adolescent, si vous voulez, adolescent. Et c'est un vrai Yankee au niveau de ses valeurs culturelles et sociales. Quelques mots sur la technique. Je rappelle que la photogravure, l'inventeur de la photogravure, tout à fait initialement, c'est un gars qui s'appelle Nicéphore Niépce, bien connu à Chalon. Hein. Et ensuite, les différentes améliorations du procédé, c'est Talbot en Angleterre et Kilitch en Tchécoslovaquie, et donc on utilise aujourd'hui toujours le procédé Kilic en quadrichromie. La quadrichromie apparaît dans les années 20, et avec le système de tramage qui permet de mettre plusieurs couleurs les unes à côté des autres, et l'apparition des rotatifs qui permettent d'augmenter les tirages d'une façon significative. Un mot sur le copyright. Alors le copyright, c'est pas le droit d'auteur. Si vous voulez, dans le monde, il y a deux grands sous-ensembles. Le monde du droit d'auteur, on va dire à la française ou à l'européenne, je rappelle que c'est Beaumarchais qui a inventé le droit d'auteur, et qui, en particulier, dans la législation qui s'est développée après, laisse une pérennité à la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, c'est toujours la propriété de l'artiste, de l'auteur. Dans le copyright, c'est pas comme ça. Une fois, si on a passé une commande, c'est celui qui a acheté, le commanditaire, qui est propriétaire de l'œuvre, et non plus l'auteur. Alors, il y a quelque chose qui contrebalance ça, ce qu'on appelle le fair use, l'usage raisonnable qui est jugé par les tribunaux, qui fait quand même que quand on veut faire des nouvelles reproductions, on demande son avis et on donne quelquefois des royalties à l'auteur. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est pas normal. Et comme par hasard, seul le monde anglo-saxon utilise le copyright. Alors ça, ça a beaucoup d'importance dans ce qu'on verra dans la carrière artistique des œuvres, pas seulement de Rockwell, de tous les Américains. Alors bien sûr, les influences artistiques, eh bien, ce sont ses professeurs, les peintres flamands, les grands illustrateurs et les peintres modernes que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà les noms typiques des grands illustrateurs. Voilà le nom de ses professeurs. Et là, j'ai mis ce tableau de Vermeer, qui est un clin d'œil. Évidemment, vous avez compris que son tableau de Triple Self-Portrait, évidemment, c'est un clin d'œil très fort à ce tableau de Vermeer, où on voit le peintre de dos, qui est avec exactement la même attitude que lui. Ah, voilà Leyendecker, qui était celui qui tenait le haut du pavé avant que Norman Rockwell apparaisse. Pour vous montrer, donc ils sont devenus amis, il habitait également à New Rochelle, et voilà le style de Leyendecker, et le style qui est tout à fait des années 20, et d'ailleurs les premières illustrations de Norman Rockwell dans les années 20 et 30 sont très fortement inspirées du style de Leyendecker. Voilà des couvertures de Leyendecker. Une autre source d'inspiration, c'est Howard Pyle, qui a fait beaucoup de peintures à caractère historique. Les pirates et la guerre. Vous voyez, guerre d'indépendance. Et un autre, N.C. Wyatt, qui est un peu atypique dans le système. C'est également des choses historiques, mais également, vous voyez, regardez dans ce tableau qui est très célèbre de Wyatt, vous voyez les nuages. Dans les nuages, vous avez une forme d'un géant. Donc, vous voyez, on cherche toujours des formes dans les nuages. C'est un peu surréaliste aussi. Montgomery Flagg, voilà un dessin très typique de Flagg. Comment travaille Rockwell? Eh bien, toutes ces couvertures viennent de peintures à l'huile sur des grands formats. 1 mètre par 0,75 m. C'est de la peinture à l'huile. Donc, on fait un dessin préliminaire d'après modèle, on étudie les couleurs dans le format de la couverture, on esquisse sur la toile soit directement fusain, soit avec une projection de la photo qu'il prendra à partir du moment où il fait des photos. Il fait une couche d'après très diluée à la térébenthine. Et ensuite, il fait la peinture finale, une fois que cette esquisse, finalement, est acquise. Il envoie la toile, il a des petites manies, il envoie la toile encadrée. Il dit ça. Ça ne sert à rien, parce qu'évidemment, l'éditeur, l'imprimeur, enlève tout de suite le cadre. Mais M. Rockwell n'envoie pas un tableau s'il n'y a pas un cadre autour. Un tableau sans cadre, il est tout nu. Ça ne se fait pas. Hein, voilà. Et ensuite, le tableau est envoyé à Rockwell, qui le garde, même si, d'après le copyright, ça devrait être la propriété du commanditaire. Ah, voilà le rythme de travail. La journée de travail, c'est pas la 35 heures, mais c'est comme ça, c'est réglé comme du papier à musique. Et il l'a dit à plusieurs reprises dans son autobiographie, « J'ai jamais raté un seul repas de ma vie. C'est pas possible. » Et il a dit, sous forme de blague, parce que c'était Monsieur Bonne Blague, Monsieur Norman Rockwell, il a dit, je me suis souvent demandé d'où venait mon inspiration, est-ce qu'elle venait de mon cerveau, est-ce qu'elle venait de mon cœur, à mon avis, elle vient de mon estomac. Voilà. Parce qu'il avait besoin de ce rythme régulier de travail. Et il ne fait rien d'autre que peindre, c'est-à-dire il ne s'occupe pas des gosses, il ne fait pas la cuisine, il ne fait pas la comptabilité, il ne fait rien d'autre. Alors, modèle et photographie, comme je vous l'ai dit, jusqu'aux années 30, il peint d'après modèle vivant. Il y a une foule d'anecdotes, justement, dans cette autobiographie sur la peinture, par exemple, d'animaux, peindre des oies. Et c'est sportif, hein, voilà. Hein. Mais également et il a fait beaucoup de peintures d'après modèle vivant. Et ensuite, il utilise quand même la photographie. Pourquoi la photographie ? Essentiellement parce que ça permet des angles de prise de vue qui sont inhabituels. On le verra sur quelques exemples. Alors, voilà des exemples de photographie. Voilà le modèle qui a servi à ce tableau. Et voilà le tableau. Vous voyez, il y a quand même une différence très sensible entre le tableau et le modèle. L'idée générale est acquise, mais il y a quand même une différence. Et on accentue l'aspect caricatural du personnage. C'est particulièrement vrai ici. Vous voyez, voilà les deux photos qui ont servi de modèle. Et là, l'accentuation de l'expression dans le tableau final, aussi bien des deux personnages. Voilà Louis Lamone. Et voilà encore des exemples entre le modèle photographié et la bouche qui est beaucoup plus ouverte, en fait, qui est distordue, celle-là aussi. Mais on ne peut pas ouvrir la bouche comme ça, ce n'est pas possible. Donc, tout en étant photographique, il y a un aspect surréaliste dans ces peintures, hein, qui sont déformées, qui ne se voient pas au premier coup d'œil, mais quand on le regarde de plus près, c'est évident. Là aussi, vous voyez. Et il se met lui-même en scène. C'est-à-dire que voilà un tableau qu'il a réalisé, et son photographe le prend avec l'expression qu'il souhaite donner au personnage qui va alimenter Papy, qui est les pieds dans son baquet. Hein, voilà. De la même façon, ici, vous voyez les exemples de photos qui ont servi de modèle au tableau correspondant. Alors, qu'est-ce que fait Norman Rockwell dans sa peinture ? Eh bien, l'objectif numéro un, c'est de raconter une histoire. C'est tellement vrai que la dernière grande exposition qui a eu Norman Rockwell, elle a eu lieu à New York en 2011. Elle a eu un succès époustouflant et elle utilisait les collections personnelles, parce qu'il y a une partie de ses œuvres qui sont parties quand même dans le circuit commercial, de George Lucas et de Steven Spielberg, qui sont des grands amateurs de Norman Rockwell. Ils ont aussi les moyens de payer. Donc, je vais raconter les histoires. Changing a flat. Vous voyez deux dames très belles avec des beaux... la roue goudronnée toute sale, qui changent le pneu crevé, et le gars qui les regarde d'un air goguenard dans sa cabane, allongé sur son hamac. Voilà. Toujours du second degré dans les images de Norman Rockwell. Toujours une petite blague. La découverte, qu'est-ce que vous voyez ? Le gamin qui est là, complètement étonné, il a ouvert le tiroir et il a trouvé le costume de Père Noël que son père utilise pour la fête de Noël. Et là, il découvre évidemment que le Père Noël, c'est une embrouille. Les vacances. Voilà l'expression des gamins 1947 et regarder la tête du conducteur, la tête de la mère de famille, les enfants qui sont épuisés, seule la grand-mère a tenu le coup. Voilà. Ça se passe dans les embouteillages. C'est un seul tableau, hein, avec deux séquences. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a sur le toit de la voiture à côté. Donc, perspective écrasée qui permet d'accentuer l'effet. C'est facile de raconter l'histoire, là, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein. Donc, le laitier qui vient à 5 heures du matin livrer le lait, évidemment, dit au jeune couple en disant « c'est à cette heure-là que vous rentrez hein. ». C'est pas sérieux. Hein. Ah, voilà un tableau qui est aussi un chef-d'œuvre que je n'ai pas mis dans la liste des chefs-d'œuvre, c'est Breaking Home Ties, 1954. Ah, je vais raconter l'histoire, puisqu'il n'y a pas de légende, il y a juste le... Donc, Breaking Home Ties, ça veut dire la coupure des liens familiaux. Le père accompagne son fils, manifestement, à la gare, pour attendre le train. Le fils attend le train qui va arriver au bout de la ligne. Donc il attend avec impatience. Il s'est mis sur son 31. Il a mis sa belle cravate flashy, hein, mal ajustée d'ailleurs. Hein. Il va certainement à l'université. Il y a des livres ici. Le chien a apparu là. Il paraît assez désabusé. Donc c'est un paysan. C'est un paysan du sud parce qu'ici il y a des balles de coton. Et donc c'est une gare où on expédie le coton. Etc., etc. Donc on peut encore aller plus dans le détail. Et l'impression qui se dégage de ce tableau est absolument fantastique. C'est un tableau qui fait, comme je vous ai dit, 1 mètre par 0,75 mètre, qui a été... il existe toujours dans le musée de Stockbridge. Non, il n'existe plus parce qu'il est dans le circuit commercial. Il a été vendu chez Sotheby's en 2006, $15 millions. $15 millions. Donc il atteint les tarifs des impressionnistes. Hein? J'adore ce tableau aussi. Voilà. Little girl observing lovers on a train. Alors, au début, on ne voit pas bien ce qu'il y a ici. On voit les jambes. Et là, on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est le pantalon de l'homme. L'homme est là et on voit la tête de sa chérie qui est ici. Et il a la tête... Et là, elle est retournée, elle les regarde d'un air étonné en disant « qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ?» Et ils doivent certainement dormir tous les deux, mais il y a un effet d'étonnement qui est absolument extraordinaire. Voilà. Et tout ça, ça se passe. Et on voit le contrôleur, regardez le contrôleur. Le billet, la main, le bras. Et les chapeaux extraordinaires qu'on portait dans les années 40. Maintenant, si vous sortez avec un chapeau comme ça, on va vous regarder dans la rue. Rebelote, ici, avec la pendule. Alors là, c'est pas le milk band, c'est papa à maman qui dit quand même, écoutez les jeunes, là, et là, ils se rebellent pas. Hein. Vous voyez, ils sont tout penauds. Ils regardent et t'as vu à quelle heure tu rentres hein? Voilà. Celui-là aussi est extraordinaire. Je vais voir si je... Je l'ai peut-être en détail, je ne sais plus. Regardez. Non, je ne l'ai pas. Je vais le passer en plus grand là pour vous le montrer. Ah, vous voyez, principal. Le principal est là, un air pincé. Ça, c'est certainement l'institutrice qui est venue rendre compte de la chose. Et qu'est-ce que l'on voit? La gamine qui manifestement s'est bagarrée et qui a un œil au beurre noir. Et qui, mais par contre, elle est très contente de son sort. Pourquoi? Parce qu'elle a sûrement gagné la bagarre. Et donc, elle n'est pas du tout inquiète de la discussion qu'elle va avoir avec le principal, en disant « cause toujours, tu m'intéresses ». Et donc là, vous voyez, la natte est défaite. elle doit être bagarreuse parce qu'elle a déjà un sparadrap d'une bagarre précédente. Hein? Voilà. Et toujours non, enfin, c'est absolument extraordinaire. Hein? La série Willy Gillis. Alors là, c'est de la propagande pour la guerre. Donc, il a inventé un personnage qui s'appelait Willy Gillis, qui est le GI, un petit peu ahuri, hein, on le voit ici, et qui part à la guerre. Il est parti effectivement à la guerre. Le modèle qui lui a servi est parti à la guerre. Il est revenu, il n'a pas été tué. Et il fait, si vous voulez, des filiations. Ça reviendrait souvent au niveau thématique. Des filiations générationnelles en disant ben, celui-là c'est la guerre de 39-45, celui-là c'est la première guerre, celui-là c'est la guerre civile, la guerre d'indépendance, etc., etc., etc. Et là, c'est les marraines de guerre qui s'en occupent avec attention. L'humour de Rockwell, sans commentaire. Alors, quand vous regardez ce tableau-là, vous regardez effectivement papy qui met l'étoile sur le haut du sapin et maman qui le tient par la ceinture pour que tout ça ne bascule pas. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est ce qui se passe en bas. C'est les deux chiens qui courent après le chat. Et le chat, qu'est-ce qu'il a? Et ben, il a un bout de la guirlande. Deuxième exemple, The Losing Candidate. C'est un politicien, mais il a perdu. Il est épuisé. Tout le monde le regarde d'un air goguenard, ici, en sortant du bureau de vote. Voilà son affiche électorale où il est souriant. Et là, vraiment, il est déconfit. Hein. Double trouble with Willy. Alors, Willy est parti à la guerre, en Europe. Mais il a deux copines à qui il a envoyé sa photo. La blonde et la rousse. Et elle se toise du regard en disant « C'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui suis le copain de Willy. » Voilà. C'est extraordinaire. C'est là aussi, Angry Voters. Alors là, c'est pas le journal, c'est le mari qui s'engueule avec sa femme parce qu'ils sont pas d'accord sur les opinions politiques. Ça, c'est en voix Truman, ici. C'est les élections de 1948. Hein. On voit Truman. Et on voit Dewey, c'est Truman qui a gagné. Hein. Donc il avait tort de hurler comme ça. Et pendant ce temps-là, le gamin hurle en disant, voilà, le gamin hurle et le chien regarde ça d'un air dubitatif. Voilà. Children dancing at party. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il lui a marché sur les pieds, bien sûr. Regardez l'expression de la jeune fille. Zut. Celle-là, elle est pas mal non plus. Ah, c'est son fils Tom. Les deuxièmes pensées, ça veut dire. Hein, c'est-à-dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et en fait, c'est son fils Tom aussi qu'il a beaucoup utilisé. Et il était effectivement terrorisé par le plongeon. Hein. Voilà encore de l'humour. Easter morning, le matin de Pâques. Monsieur est en pyjama et lit ses journaux, se cache dans le fond de son fauteuil et toute la famille va à l'église pour la messe de Pâques ne jette pas un œil à cet abruti qui reste à la maison. La babysitter qui est complètement débordée, le gosse qui hurle. Et elle a le manuel de la parfaite babysitter. Elle a du mal. Le nonsense. Alors ça, c'est un exercice que vous ferez à la maison quand vous téléchargerez la chose. Donc, c'est le poisson d'avril. Donc, c'est un tableau avec... Bon, au premier degré, on dit, ouais, bon, tiens, il y a quand même quelques trucs bizarres, là. Il y a les mains qui dépassent, ici. Ah, puis tiens, il y a une oie qui vole, ici. Il y en a une deuxième, là, ici. On regarde la dame, machin, qu'est-ce qu'elle a? Ah, ben tiens, elle a une clé à molette, là. Puis elle a des patins à glace. Et lui, il a des patins à roulettes. Et elle, elle a un pantalon. Et il a un oiseau dans sa poche. Et il y a un daim qui est sous la chaise. Et le daim, ben, il a des pattes de chat. Etc., etc. Il y en a 45. Donc, je fais une interro à la fin de la conférence et vous les chercherez. Je les ai toutes, hein, j'ai les réponses. Autre thème, l'enfance. Il a beaucoup peint d'enfants, hein, aussi bien dans des couvertures que dans des illustrations de livres pour enfants. Voilà, je l'ai mis dans le mail que je vous ai envoyé, donc Soda Jerk. Alors voilà l'apport de la photo. C'est impossible à peindre d'après nature, puisqu'il faudrait être sur un échafaudage à 2 mètres de haut. Donc c'est une vue plongeante. Hein. Et alors vous voyez l'air ébahi et époustouflé des jeunes qui se regardent mutuellement, donc c'est surtout ces deux-là. La copine regarde, mais elle dit, qu'est-ce qu'il lui trouve quand même à ce gars-là? Celle-là, on ne sait pas ce qu'elle en pense. Hein. Le chien n'en pense pas moins. Et surtout celui-là, avec son œil en coin, il se dit, mais qu'est-ce qu'il lui trouve encore à celui-là? Hein. Celui-là, je vous l'ai déjà montré, After the Prom. Très souvent, il y a une association de vieillards et d'enfants. On a beaucoup glosé sur l'importance de ce thème-là dans sa production. Je pense qu'il aimait tout simplement bien, et il était assez habile pour montrer des personnages âgés et des personnages jeunes. Hein. En voilà un autre, c'est aussi un April Fool's, c'est un poisson d'avril, où il y a plein de choses absolument bizarres. Vous voyez par exemple un chien avec une queue de chat, hein, parmi tant d'autres choses. Enfin, il y a plein de gadgets bizarres. Le couple, c'est aussi une thématique qui est très développée. Donc voilà, le wedding gift, c'est l'inscription des bancs, hein, et on voit les bancs pour le mariage, le bureaucrate qui est là, qui s'ennuie un petit peu, puis qui regarde d'un air ennuyé l'environnement. Enfin, ça respire pas la joie. La famille. Voilà ce type d'image. Ce type d'image, en fait, c'est une image d'une publicité. C'est plus vrai que nature. Et donc, j'y reviendrai à la fin, ça, c'est du pouvoir de l'image. Et on a été quand même, quand on était jeunes, on a vu ces images dans les magazines. Et ça donnait une image idéalisée de l'Amérique. Cette photo-là, elle est aussi extraordinaire. Mais voilà. Norman Rockwell, il se représente souvent dans les scènes de famille. Ça, c'est son fils Tom encore, mais grand. Il est rentré à la maison et il vient apporter les cadeaux de Noël. Ça, c'est le fils cadet, c'est Peter. Les autres, c'est des membres de la famille, enfin, ou des modèles du voisinage. Et surtout, je vous montre cette petite mamie, là, c'est Grandma Moses, qui est presque aussi célèbre que Norman Rockwell, qu'il a connu quand il était à Arlington, qui est une mamie qui s'est mise à peindre à 67 ans, alors qu'elle n'avait jamais fait de peinture, et elle a eu un succès fantastique, une peinture naïve. Vous allez aux États-Unis, Grandma Moses, tout le monde la connaît. La guerre n'est jamais montrée en tant que telle, elle est montrée d'une façon allusive et d'une façon à la limite positive. Et sentimental. Là, vous avez compris, vous voyez un soldat sur le front français et qui dit « il se rappelle de moi ». Et voilà, c'est le colis qu'il vient de recevoir. Deuxième guerre mondiale, aspect positif de l'arrivée des Américains. Le soldat donne à manger à la petite fille. Le monde ouvrier est aussi présent. Voilà le poseur de ligne et le mineur. Les scouts ont été une partie importante de ses revenus, puisqu'il a peint pendant 50 ans le calendrier annuel des scouts. Voilà un de ses exemplaires. Le patriotisme, un thème qui revient très, très, très souvent dans ses peintures. Voilà des peintures de propagande, on va dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça, c'est Rosie the Riveter. Alors, c'est quoi? C'est la riveteuse, hein. C'est-à-dire, elle participe à l'effort de guerre pour construire les Liberty Ships. et donc on voit le drapeau derrière et on voit le sandwich. Mais il a pris comme modèle quoi ? Ça, la chapelle Sixtine. C'est le prophète Isaïe dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange, et c'est exactement la même pose. Donc, j'ai voulu vous montrer ça pour vous montrer, il utilise des modèles de la peinture classique et des effets d'importance, c'est toujours l'écrasement de la perspective avec les différentes générations. C'est le même type que ce que je vous ai montré quelques planches avant. Voilà. Le retour. Alors, le thème du retour vient très souvent, c'est-à-dire le soldat rentre à la maison et toute la famille soit écoute ses histoires, soit lui saute au cou de joie parce qu'il est rentré sain et sauf. Ah, voilà donc les seules peintures qu'il ait vraiment faites, qui étaient militantes. Donc, comment il a appelé ce tableau ? Le problème we all live with, c'est-à-dire le problème avec lequel nous vivons. Le problème de la ségrégation. Ah, ça, c'est une petite fille, elle existe vraiment. C'est la première petite fille qui a été admise dans le Sud à aller dans une école de blancs et qui est protégée par des policiers. Là, on voit des tomates qui sont écrasées là-dessus. Nigger, le nègre. Et on le voit mal ici. KKK, Ku Klux Klan. Une autre peinture qui est les Southern Justice. Donc, c'est des fusillades où on a, y a des Noirs qui ont été abattus dans des manifestations. Et évidemment, ils dénoncent ça. La vie citoyenne. La vie citoyenne, vous avez tous vu 12 hommes en colère, donc le jury, le jury populaire. Vous le voyez normalement, quoi, il est là. Et tous les autres jurés, sauf celui-là, qui roupille et qui est en train de regarder je ne sais pas quoi, de le convaincre de leur position. Et elle est contre la position. Donc voilà. Jury, boum. The hold out, ça veut dire la pause, hein, l'interruption de séance. Rockwell visite le Ration Board 1944. Alors, il y a eu également du rationnement aux États-Unis. Ça, on le sait peu, on l'oublie. Parce que l'effort de guerre au niveau alimentaire, je rappelle qu'il y avait quand même les sous-marins, il y avait du rationnement. Et pour le rationnement, c'est pas comme les Restos du Cœur, chacun vient plaider sa cause devant une commission. Et en disant, moi j'ai besoin de quelque chose, donnez-moi quelque chose, ben expliquez-moi quoi. Ça ne se passe pas comme chez nous. Et Norman Rockwell, il vient assister à ça, il est là. Le vote, lequel ? Which one ? Donc il y a les deux, 1944, donc c'est la réélection, la dernière réélection de Roosevelt. Puisque l'élection va se passer dans quelques jours, je rappelle une chose, pendant l'élection, on vote pour à peu près 150 choses différentes. Et vous, tout ce que vous voyez là derrière, c'est des petits bulletins pour voter pour les sénateurs, pour les représentants, pour le shérif, pour ceci et cela. Donc les Américains sont beaucoup plus intelligents que nous, eux ils sont capables de voter pour 150 choses à la fois, alors que nous on est difficilement capables de voter que pour une seule chose. Les politiques. Il a peint tous les présidents des États-Unis, de Roosevelt à Carter, également leurs opposants politiques. Pas du tout parce qu'il avait envie de les peindre, il les a peints d'après nature. Donc on a des anecdotes savoureuses de la façon dont ça s'est passé pendant les séances de pause. Je n'ai pas le temps de les détailler, mais ça vaut le coup. Donc vous reconnaissez bien sûr Eisenhower et Kennedy. Ça, il ne l'a pas fait d'après nature, il l'a fait après son assassinat. Les acteurs, il en a peint beaucoup puisqu'il a fait de nombreux séjours aux États-Unis. Il a travaillé pour les studios. Alors celui-là, le quiz, c'est Gary Cooper. Il était très ami avec Gary Cooper, jeune, hein, qui fait 1m95 de haut. Donc il était impressionnant, et celui-là, vous le reconnaissez tous. Bon, pas besoin de le citer. Il a eu une commande d'un réalisateur qui a fait un film qui s'appelle Stagecoach, avec Anne Margaret, par exemple. Et voilà la photo le modèle. Donc, il donne la position qu'il souhaite qu'elle prenne et elle le fait de la même façon que lui. Enfin, elle essaye. Et voilà le résultat au niveau de la peinture. Le sport. Alors là, il y a une quantité incroyable d'images de sport qui sont également ironiques. Vous voyez celle-là. Le centenaire du baseball, en 1939. Baseball, jeu inventé par les États-Unis. C'est ridicule. Alors, c'est les tenues que portaient, alors évidemment, qui sont un peu clownesques, que portaient les gens au début du siècle. Hein. Ah, voilà l'image de la période 1948 de post-guerre. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous voyez le public qui s'agite beaucoup. Et ce qu'on appelle le dugout, c'est cette petite cabane dans laquelle les entraîneurs ou les coachs observent ce qui se passe. Alors manifestement, l'équipe de Chicago n'est pas en bonne posture. Donc celui-là est tout penaud et n'y arrive pas. Et on voit tous les entraîneurs qui sont complètement effondrés en disant « on s'en sortira jamais hein ». Voilà. On raconte une histoire, toujours pareil. La critique d'art, je vais déjà parler de celui-là, parlons de celui-là. Picasso contre Sargent. Sargent, c'est un peintre de la bonne société qui fait des tableaux très classiques, comme ça. Qu'est-ce que l'on voit? Mamie et sa petite fille qui regardent avec attention cette magnifique peinture, disons, de la haute société new-yorkaise, et de l'autre côté, une jeune étudiante à l'école d'art, en jean, rousse, et qui examine Picasso. Et le dernier sur la critique d'art, c'est de Connoisseur. 1962. Alors ça, c'est une toile de Jason Pollock. Jason Pollock qui était au firmament de sa côte à cette époque-là. Donc, vous savez que Pollock fait des tableaux en faisant des giclures de peinture à plat sur le sol. Et donc, et après, il disait, voilà, c'est un tableau. Donc, on voit ça, et Pollock lui-même a dit, en voyant ce tableau, il a dit, j'aurais pu le faire. C'est exactement, je ne redis pas ce qu'il a fait. Hein. Et devant, on voit quelqu'un qui regarde le tableau. Évidemment, on ne voit pas son expression. Donc, tous les fantasmes sont possibles sur le fait qu'il l'apprécie beaucoup ou qu'il le déteste. Les seuls petits indices que l'on ait, c'est son costume. Il n'est ni en cheveux longs, ni en jean. C'est un gars, il a même des gants. 1962, hein. Donc c'est un homme de la upper class. Hein. Il n'y a pas de doute. Mais peut-être qu'il l'apprécie. On ne peut pas le savoir. C'est un secret. Donc il aime bien aussi mettre des indices cachés. Il y a quand même un indice, moi, qui me fait dire qu'il est dubitatif, c'est la distance qu'il a vis-à-vis du tableau. Vous voyez qu'il a le nez sur le tableau. Donc, avec un tableau qui fait cette taille-là, qui fait, vu sa taille, qui fait 2 mètres par 2 mètres et même plus, il doit voir, disons, uniquement son champ de vision, c'est uniquement celui-là. Mais enfin, ça change pas le problème. La publicité. Alors, la publicité, c'est une part importante de ses revenus. Il a toujours eu peur d'être dans le besoin, pour des raisons que j'ai déjà dites. Le subvenir aux besoins de sa famille élargie, même s'il ne la voyait pas. Et deuxièmement, la peur incessante de perdre la faveur du public. Donc, la publicité, c'est un flux de revenus important et qui est relativement régulier. Et moins sujet aux sautes d'humeur des goûts du public. Et puis en plus, c'est moins fatigant, vu de son point de vue, que quelque chose qui soit original. Alors là, je me suis payé de retrouver toutes les sociétés pour lesquelles, je ne vais pas les lire, hein, pour lesquelles il a travaillé, simplement pour vous montrer l'importance de cette activité. Voilà quelques exemples de la publicité. Évidemment, je n'ai pas pu échapper à Coca-Cola, mais vous avouerez que par rapport aux publicités actuelles, ça a quand même une autre classe que parce que on ne voit pas que Coca-Cola, on voit tout un environnement. Je voulais m'attarder sur ces deux-là. Cette publicité, c'est une publicité pour la c'est marqué là, pour la Fédération des horlogers suisses. Et qu'est-ce qu'on montre? C'est l'attention et la finesse et la méticulosité du travail. Donc toujours la distance entre l'enfant et le vieillard. Donc le vieillard expérimenté, méticuleux, et l'étonnement de l'enfant devant cette scène. Ça, c'est une publicité pour un pharmacien, pour la pharmacie, d'une façon générale. Mais quel est le message qui vient là? Le pharmacien prépare votre médicament, prépare votre médicament. Bien sûr, ce n'est plus le cas maintenant. Voilà encore une qui est extraordinaire. Alors, je vous traduis ici. Si votre vue contrôle vos grandes décisions, aidez-la. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est un gars, des gens qui jouent aux cartes, et on voit qu'ils se retournent comme ça pour regarder quelle carte a son partenaire. Donc il faut qu'il ait de bonnes lunettes pour voir quelle carte il a. Les soupes de Campbell, et on arrive sur les super chefs-d'œuvre, les quatre libertés. Ah, voilà les quatre libertés. Ah, je suis obligé de raconter un petit peu l'histoire. Pearl Harbor, c'est décembre 41. Vous savez qu'aux États-Unis, le président des États-Unis fait un discours le 20 janvier de tous les ans, qui fait le discours sur l'état de l'Union. Et Roosevelt a fait un discours où il a parlé des quatre libertés, que je vais détailler, et s'en est resté là. Mais quand la guerre a été déclarée avec le Japon, Rockwell a été approché, ou c'est Rockwell qui a approché, c'est pas très clair, le département de propagande, le fameux IWO du département d'État. Et là, il s'est enlisé dans la bureaucratie où il y avait des querelles de chapelle, et finalement, son projet, qui était les prémices des tableaux que je vais vous montrer, a été refusé. Et rien n'a été fait. Donc, in fine, c'est le Saturday Evening Post qui l'a publié en 1942 dans quatre numéros différents. Et là, ça a eu un succès absolument fantastique. Donc, les quatre libertés sont la liberté de parole, la liberté de religion, la liberté de l'abri du besoin, freedom from want, et l'abri de la sécurité de vie, hein, freedom from fear, fear ça veut dire la peur. Hein. Alors, celui qui est de son aveu, et c'est aussi mon avis, qui est le meilleur, c'est le freedom for speech. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit un paysan. En fait, c'est une scène réelle qu'il a vue dans une réunion municipale à Arlington. Ce sont des paysans, des. Voilà. Et ce gars-là, il exprime une opinion hyper minoritaire parmi l'Assemblée. Cependant, tous les gens qui sont autour, au lieu d'hurler, l'écoutent. Donc, on accepte l'expression publique d'une opinion minoritaire. Ah, effectivement, cette histoire-là, quand on voit le tableau, on ne la connaît pas. Mais c'est vraiment une expérience. Et il tient souvent à avoir beaucoup de personnages pour que des expressions variées des interlocuteurs permettent de comprendre. Et vous voyez, il regarde un petit peu en haut parce qu'il pense à ce qu'il dit. Donc, c'est vraiment son cœur qui parle. Hein. C'est comme ça qu'on peut interpréter le tableau. Bon, la liberté de religion, donc il a fait exprès, donc toujours pareil, écrasement des perspectives et des profils avec tous les âges et toutes les physionomies. Ça, c'est une scène hyper célèbre, donc c'est le Thanksgiving. Le Thanksgiving, c'est la fête de le quatrième jeudi du mois de novembre, qui est une fête qui date de la Mayflower, hein. donc qui fêtait le fait que Dieu avait permis la survie de la colonie parce que on avait élevé, et les Indiens leur avaient montré comment élever des dindes, qui est le repas de Thanksgiving classique. Donc papy, mamie donnent ça et toute la famille est réunie puisque c'est l'occasion de réunir la famille. Alors ça aussi, manifestement, c'est fait avec une photographie. Vous voyez, écrasement des plans, c'est fait avec une focale téléobjective de telle façon qu'on ait une vue plongeante. Et Freedom for Fear. Le dernier grand chef-d'œuvre, c'est Golden Rule. Golden Rule, c'est la règle d'or. Ne fais pas, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Do unto others as you would have them to do unto you. Alors ça, il l'a peint en 1953. Succès également immédiat. Le succès a même été tellement grand que ça a été reproduit en fresque, en mosaïque. Et cette mosaïque qui est gigantesque et magnifique, si vous avez l'occasion d'y aller, elle est dans le hall du pavillon des Nations Unies à New York, et qui est exactement celle-là. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Alors, je vous montre Voilà. Le même. Regardez l'expression des visages et la technicité du peintre. La dinde est bien cuite. Et regardez les expressions de tous les visages autour de la table. Donc, le bonheur de se retrouver. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, hein. Mais bon, voilà. Et voilà donc ce tableau. Alors, je vais quand même le grossir parce qu'il en vaut la peine. Alors ça, il a utilisé, il a fait son grand tour avec la Paname en 1952 et 55, mais là, c'était en 52. Et il a pris beaucoup de photos dans beaucoup de pays. Et donc, vous voyez, toutes les ethnies sont représentées, des Japonais, des juifs. Des Scandinaves. OK. Et ensuite, le même en mosaïque. Quand vous le remettez à la bonne dimension, on ne devine à peine que c'est une mosaïque. Là, il y a le reflet de la lumière, effectivement, qui brille un petit peu. Et donc, si vous allez à New York, visitez le bâtiment des Nations Unies, vous verrez cette magnifique mosaïque dans le hall d'entrée. Alors, j'arrive à la conclusion, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, spécificité de la carrière de Rockwell, comme je l'ai dit, ça a duré très longtemps. Et ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que les goûts, par définition, ont beaucoup changé en 60 ans. Il y a 3 ou même 4 générations qui sont passées. Et l'art moderne, toutes les évolutions artistiques de l'environnement n'ont pas affecté son succès. Lui-même n'a peu varié son style, à part le style de début qui ressemblait à celui de Leyendecker, et après on voit qu'il a son style propre qui est facilement reconnaissable dans les années 40 à 50. Et ça n'a pas empêché son succès. Alors évidemment, on a craché sur Norman Rockwell dans toute la période de l'art moderne, on va dire des années 40 aux années 70. Et leur tour de balancier a commencé à se profiler à partir des années 70. Et lui, c'est un vrai self-made man à l'américaine, parce qu'il est parti de rien, et il a fait toute sa carrière, comme je vais essayer de vous la décrire. Alors, voilà, j'ai essayé de synthétiser toutes les critiques qu'on a faites sur sa peinture. Elle est passéiste. Ouais, peut-être. Trop figurative, alors ça, c'était un péché capital, évidemment, pour des Rothko ou de l'abstraction pure. Et je n'ai pas trouvé de mot, elle est « sweetie », comme on dit en anglais, donc elle est sucrée, c'est-à-dire c'est trop gentil, c'est trop beau, c'est trop... Mais c'est fait exprès, puisqu'il l'a dit très clairement, « Je n'ai pas peint le monde tel qu'il est, j'ai peint le monde tel que je voudrais qu'il soit. » Et il l'a écrit tel que dans son autobiographie. Pour lui, la peinture est une thérapie, c'est-à-dire il veut un monde idéalisé selon ses propres valeurs. Alors évidemment, ça ne représente pas la réalité. Et toute la crise de l'entre-deux-guerres, les tensions raciales, sauf les tensions raciales pour lesquelles il a fait les tableaux que je vous ai montrés, tout à fait à la fin de sa vie, et certainement sa femme a été pour quelque chose, sa dernière femme était pour quelque chose dans cette inflexion. Style figé, ben oui, quand il est bon, c'est pas la peine de changer. C'est commercial, alors là, c'est le péché encore plus capital. Alors, c'est commercial, sauf que ceux qui n'étaient pas commerciaux lui demandaient, en loose day, des conseils pour avoir des enfiles pour faire de la publicité. Donc, bon, et trop de succès public, alors là, vraiment, c'est absolument impardonnable. Voilà. Alors, un mot sur le soft power, c'est-à-dire le pouvoir implicite de l'image, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On a vu ces images ou celles d'illustrateurs équivalents dans toute la presse. Vous vous souvenez de cette revue qui s'appelait, je ne sais plus si ça existe toujours, le Selection des Readers Digest, où il y avait beaucoup d'illustrations de ce type-là. On a eu, à travers ces images-là, une image idéalisée des États-Unis. Alors, quand même, une préconclusion. Pourquoi on a des difficultés à apprécier ou à juger sa peinture par rapport à ce qu'on connaît de la peinture européenne, c'est qu'on n'a pas la même hiérarchie des valeurs. La valeur dominante dans le monde anglo-saxon, c'est la liberté. Un signe très clair, par exemple, les quatre libertés qu'on pourrait prendre pour nos propres valeurs, on ne les appellerait pas des libertés, on les appellerait des droits dans notre culture. Et aux États-Unis, ça s'appelle des libertés. Donc vous voyez la subtile distinction. Le dédain pour des académies publiques, c'est-à-dire aux États-Unis, il n'y a pas la grande école des beaux-arts ou les grandes écoles des beaux-arts qui sont la référence et le reste, ça gravite autour. C'est ce qui gravite autour, c'est ce qui est bien, ce qui est public, c'est pas bien. Hein, c'est dans la culture. C'est toujours pareil, c'est la liberté. Ce qui est public, c'est au second degré. Donc il y a beaucoup d'écoles d'art qui sont florissantes, alors que les écoles officielles et machin sont figées et mal considérées. Il y a peu d'écoles de peinture, au sens européen du terme. Nous, on a inventé des écoles tous les ans. Le cubisme, le fauvisme, l'expressionnisme, machin, enfin bon... On est envahi par les écoles. Il n'y a pas d'école aux États-Unis. Chacun est sa propre école. Alors, il y a des tendances, des choses comme ça, mais c'est beaucoup moins évident. Pourquoi ? Parce que les gens sont de caractère individualiste. On l'a rattaché à une école qu'on a appelée l'école régionaliste, qui avait un peu le même style que lui, mais qui ont peint des scènes réelles de la campagne, des choses comme ça, qui étaient beaucoup moins idylliques que la peinture de Rockwell. Mais bon, le copyright, j'en ai parlé, et il n'y avait pas de culture patrimoniale de la peinture aux États-Unis, c'est-à-dire on ne fait pas de spéculation sur la peinture, c'est plus vrai maintenant, puisque j'ai cité des tarifs, hein, mais jusqu'à la période des années 50-60, avec le boom de l'art abstrait, il n'y avait pas de culture patrimoniale. C'est-à-dire, je veux avoir des peintures dans mon château. Je n'ai pas de château. Hein. Donc, ça n'existait pas. Alors, maintenant, c'est devenu le virus, on va dire, européen, a diffusé sur toute la planète. Et on arrive à des tarifs de vente dans les salles de vente qui sont complètement débiles. Même pour des Rockwell. Voilà un héritage de Rockwell. Il y en a des tas. En fait, ils sont contemporains. Hein. Dick Sargent, il n'y a pas de lien de parenté avec Singer Sargent. Et vous voyez, le style est très voisin, hein, mais dans un style un petit peu plus moderne. Hein. Voilà. Et donc, la piqûre. Hein, et la dame qui s'époumonne au temple. Donc j'en arrive à la conclusion, j'ai un peu dépassé l'heure, mais excusez-moi. Donc je maintiens, et maintenant tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est un véritable artiste, car il a pu choisir ses sujets presque en toute liberté, tout en ne travaillant qu'à la commande. C'est-à-dire on ne lui a pas imposé de sujet. Et il y a une variété absolument infinie de thèmes, puisque comme je vous l'ai dit au départ, il a fait 4000 œuvres. Et là, on pourrait analyser ces tableaux à l'infini. Il a toujours été soucieux de sa survie économique, tout en sacrifiant pas son art. Comme je vous l'ai dit, il a toujours eu peur de perdre la faveur du public, tout en ayant... Alors, il a fait quelques tentatives, par exemple, d'imiter, par exemple, Matisse. J'ai cité tout à l'heure Matisse. Ça a été refusé par le public. C'est par du Rockwell. Donc, il a été un peu condamné par ses fans à rester dans le même style de peinture depuis le début. Et puis, dernier point, c'est l'idéalisation de l'image de l'Amérique qui, il l'a fait pour lui, hein, c'était pas de la propagande au premier degré, sauf pendant la période de guerre, mais disons, ça a été largement utilisé par les médias pour donner une image radieuse, si vous voulez, des États-Unis, qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui à faire passer. Donc, je vous remercie de votre attention, et puis... Alors, ce que je vous propose, si ça intéresse certains, c'est que je pourrais faire quelques petites séances à la style Mathieu Pinette pour vous détailler un petit peu plus un certain nombre d'œuvres, puisqu'il y a un stock de matériaux qui est absolument extraordinaire. Alors, si ça vous intéresse, là, je peux vous montrer... Donc ça s'appelle « Mes aventures comme un illustrateur hein, » et donc qui est son autobiographie. En fait, initialement, il ne voulait pas faire une autobiographie, il voulait faire une énième... l'éditeur voulait faire un énième bouquin de recueil de ses œuvres. Et puis, il lui a demandé « Fais un texte un petit peu détaillé pour chaque peinture. » Puis à force de faire un texte plus détaillé, il a dit, mais non, c'est pas, ça va pas, faut que je raconte ma vie. Comme ça, ça sera plus intéressant. Et c'est par glissement successif que l'idée de faire une autobiographie est apparue. Voilà.